mardi. Ici Guy Simard. Le premier ministre Mark Carney et le président Donald Trump se sont rencontrés pour une première fois aujourd'hui dans le bureau ovale de la Maison-Blanche.
Climat détendu, échange courtois, Donald Trump a d'abord félicité son vis-à-vis pour sa victoire électorale. Mais rapidement, le président a mis le sujet de l'annexion sur le tapis.
Time. Time will tell. It's only time. But I say... Never say never.
Avec le temps, a-t-il dit, il ne faut jamais dire jamais. Le premier ministre Carney a tenu à remettre les pendules à l'heure.
There are some places that are never for sale. It's not for sale, won't be for sale, ever.
Le Canada ne sera jamais à vendre, a-t-il affirmé. Le premier ministre sort satisfait de son échange avec le président, échange qu'il dit constructif, et ce, même s'il a dû demander à son homologue de cesser de parler du 51e État.
J'ai dit, c'est pas utile de répéter cette idée. Mais le président, il va dire ce qu'il veut.
Prochaine étape, Mark Carney convoque les premiers ministres des provinces dès ce mercredi pour faire le point. Ici Denis Couture pour Cogeco Nouvelles.
François Legault admet qu'il n'a aucune idée du coût total du projet de reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, que certains estiment à 5 milliards. Il compte pourtant lancer la phase préparatoire du projet dès cette année.
Questionné par l'opposition, François Legault indique que l'évaluation du chantier HMR n'est pas complétée.
Il y a des évaluations qui sont encore en cours. On sait que ça va être des milliards de dollars.
Le premier ministre ajoute qu'on va commencer par la première phase.
D'ici le 31 mars 2026, on va déplacer puis faire le nouveau stationnement.
Une réponse qui a fait sursauter le chef de l'opposition, Marc Tanguay.
Madame la Présidente, ce que vient d'affirmer le premier ministre, dans le fond, là, c'est qu'il a trouvé de l'argent pour le stationnement uniquement.
François Legault promet qu'il y aura bel et bien de l'argent pour la suite.
Par la suite, on parle d'un projet de milliards de dollars qui sera financé au fur et à mesure à l'intérieur du PQI.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Le gouvernement du Québec ne sait toujours pas s'il respectera sa promesse électorale de 2018 voulant que les patients soient pris en charge aux urgences dans un délai de 90 minutes ou moins. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a été interrogé à ce sujet aujourd'hui lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère.
On a pris l'engagement populationnel. On veut que les médecins les prennent en charge dans leur GMF, etc., etc. Alors donc, je vous dirais en ce moment, on va continuer de mesurer ça. Je pense que c'est ça que les Québécois nous le demandent.
Après des années de silence, l'ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay, a témoigné aujourd'hui au procès pour corruption de son ancien bras droit, Frank Zampino, et de ses quatre co-accusés. Il s'est défendu d'avoir fermé les yeux sur cette affaire qui a mis un terme à sa carrière politique.
Gérald Tremblay n'a pas arrêté de le répéter.
Je n'ai jamais fait d'aveuglement volontaire. À toutes les fois qu'on m'a informé d'une situation, j'ai agi.
Après 3 mois de procès, le témoignage de l'ex-maire de Montréal était fortement attendu. Frank Zampino et ses quatre co-accusés aurait participé à un stratagème de collusion, de corruption et de financement politique dans les années 2000. Gérald Tremblay a affirmé avoir remis aux différentes autorités policières un document.
La police n'avait rien fait à l'époque.
Exactement. Oui, non, exactement.
L'ancien maire a aussi déclaré qu'il ne savait pas que son bras droit de l'époque, Frank Zampino, avait des liens étroits avec le mania déchu de la construction, Tony Accurso. Le système de collusion aurait permis au parti de Gérald Tremblay de récolter une ristourne de 3 %, ce que l'ex-maire réfute.
Ali, c'est une bonne question. J'ai posé la question.
Le témoignage de Gérald Tremblay doit reprendre mercredi matin au Palais de justice de Montréal. Fanny Sanson pour Cogeco Nouvelles.
En Allemagne, Friedrich Merz a finalement réussi à se faire élire chancelier par les députés allemands au second tour. Plus tôt dans la journée, il avait essuyé un revers au premier tour, une première dans l'Allemagne d'après-guerre. Il a obtenu 325 voix au second tour contre 310 au premier, à 6 voix de la majorité. Sa coalition détient pourtant 328 sièges. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. 15 degrés, 40% de risque d'averse ce soir, cette nuit pour Trois-Rivières. On prévoit 18 demain, 40% de risque d'averse. À Québec, 13 et 17, peut-être des orages demain, 40% pour les risques. Sherbrooke, 14 et 18, 40% là aussi. Gatineau, 13 cette nuit, 15 demain, averse et orage. Montréal, pour les prochaines heures, 13, 40% de risque d'averse. Même pourcentage pour ce mercredi, le maximum sera de 20.
Cogeco Nouvelles.
Qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent.
CFIX FM 93.
Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez à CFIX FM 93. CFIX.
Jusqu'à minuit, le réseau Cogeco vous présente les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Na, 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 na.
Nous sommes de retour et on entre dans une zone différente au cours de la prochaine heure, bien qu'on va continuer de suivre l'évolution du match entre le Rocket et les Monsters de Cleveland. Aux dernières nouvelles, c'était 3-1, donc Cleveland qui avait réussi à s'inscrire à la marque, Washington qui menait 1-0. On va y revenir également, et le match Oilers-Golden Knights un petit peu plus tard. On aura des billets également à attribuer, à vous faire gagner. Je vous invite à nous écrire en une ligne ou deux, pourquoi ça serait de moi juste de bonne idée que vous soyez la personne qui gagne une paire de billets VIP pour l'événement qui aura lieu ce vendredi soir, 9 mai, à l'hôtel Vogue, pour le grand retour de la UFC à Montréal. Et non seulement Georges St-Pierre sera là sur place, mais aussi vous pourrez rencontrer, prendre des photos avec Olivier Aubin-Mercier, Valérie Letourneau, qui seront avec nous ces prochains jours, demain soir, mais également deux des précurseurs, on pourrait les appeler des princes de l'octogone tellement ils ont été de bons ambassadeurs, défricheurs également de ce sport au Québec. Ils seront là pour l'événement de vendredi en studio avec nous. Et je les présente sans plus tarder. David Loiseau, dit The Crow. Salut David.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Premier francophone, premier Canadien francophone à combattre dans un gala de la UFC. Un élément de fierté quand tu regardes ça avec le recul aujourd'hui?
Avec le recul, bien sûr, bien sûr. Je suis très fier. C'était en juin 2003. À Miami, en Floride, c'était mon début au UFC contre Mark Weir. C'était UFC 42.
Début imagine. Victorieux.
Début victorieux, premier round, KO. Très content, très fier.
Wow, et cette voix que vous entendez, c'est une voix familière, puisque depuis 2011, aux côtés de Jean-Paul Chartrand Jr., on l'entend écrire, décortiquer, nous expliquer lui-même, combattant. Il a l'expérience de l'octogone, bien sûr. Patrick Côté. Salut, Patrick.
Salut.
Enchanté de t'accueillir, toi aussi.
Très content d'être ici.
Ben, c'est un plaisir de t'accueillir tous les deux, puis on va consacrer l'heure au gala de la fin de semaine, aux arts martiaux mix, et à travers cette heure-là, on va avoir l'occasion, avec votre complicité, de s'entretenir avec Marc-André Barriot, qui est sur la carte samedi. Parlons de la carte, les gars. Je vais te poser la même question, Patrick, que je t'ai posée en dehors des ondes. Mais d'abord, j'en ai une autre. Tu étais sur la carte du dernier gala UFC à Montréal. T'as une idée de ce que ça peut représenter pour Marc-André? Quel genre de semaine il vit là, que d'être une des têtes d'affiche de l'événement par la force des choses?
Ben, c'est extrase. De un, vous savez c'est quoi l'ambiance lors des jeux de hockey au Centre Bell? À l'UFC à Montréal, c'est spécial. Je me suis battu un petit peu partout à travers le monde. Je pense que David va dire la même chose. Le Centre Bell, c'est mythique, c'est bruyant. Et surtout, lorsque tu viens d'ici, t'es un Québécois, la foule va se mettre derrière toi. En plus, Marc-André va vous le dire tantôt, c'est un combat qu'il peut pas perdre. Et c'est une séquence de défaites, c'est un combat extrêmement important. Il joue peut-être son emploi ce soir-là. Donc, il va arriver avec le couteau entre les dents. Puis il va avoir besoin de la foule ce soir. Il va avoir besoin d'un petit push, de la foule dans le dos pour l'encourager puis pour le supporter pour aller chercher cette victoire-là.
C'est-tu vrai que ça aide de le sentir le plus de la foule, que ce soit le Canadien dans un match de hockey ou toi quand t'es seul dans l'octogone contre ton adversaire?
Ceux qui disent qu'ils n'entendent pas la foule, c'est des menteurs. Surtout ici à Montréal, je peux vous le dire. T'entends tout, mais tes sens sont tellement aiguisés que tu vas entendre qu'il y a une personne qui va crier dans la troisième rangée puis tu vas savoir exactement c'est laquelle. C'est dur à expliquer le sentiment ou comment tu te sens dans l'octogone. C'est comme un Twilight Zone. J'ai tout le temps la même chose. C'est un feeling qui est dur à recréer, puis c'est pour ça souvent qu'il y a des combattants qui ont de la difficulté à prendre la retraite, qui vont faire le combat de trop parce qu'ils sont accros à cette adrénaline.
Oh, OK, ils sont accros. Parce que je sais pas si tu te souviens le combat de Georges St-Pierre, le rematch Georges St-Pierre contre Matt Serra. Mm-hmm. Le rematch à Montréal, c'est au Centre Bell. C'est la première fois que l'UFC venait à Montréal.
Et Georges avait perdu son premier combat contre Serra.
Mais ça, c'était le rematch. C'était l'enfer. La foule, et tout le monde criait, hurlait. Depuis la sous-carte, GSP, GSP. Ouais. En sous-carte, on criait le nom de Georges. Parce que là, on parle de foule. Ça a affecté l'énergie à Georges. Il était en feu cette soirée-là.
Quand tu as commencé ta carrière, David Loiseau, en 2003, là, pouvais-tu t'imaginer que la business des arts martiaux mixtes, qu'on pourrait résumer souvent en disant juste UFC, bon, ben, il y a un petit peu plus large, mais c'est le gros joueur, mais pouvais-tu t'imaginer que ça deviendrait l'empire que c'est gros, là,
c'est rendu immense, rendu, comme on dit, mainstream, mon premier combat professionnel, c'était en juin 2000, à Montréal, mais mon début au UFC, c'est en 2003.
D'accord.
Et en 2003, je pensais, le UFC avait de la difficulté, ils étaient proches de la faillite.
Ouais.
C'est ça, alors c'était pas, il y avait, dans le American Airlines Arena, je pense qu'il y avait 6000 personnes. Tu sais, puis c'était une grosse foule pour nous autres, 6000 personnes. Waouh, waouh. Mais maintenant, 6000, c'est une honte, c'est même pas.
Ouais, exact. En fait, ce qui est arrivé, c'est que jusqu'en 2005, l'UFC perdait de l'argent. Il était pas capable de mettre ça à une télé conventionnelle pour que tout le monde puisse l'écouter.
On l'acceptait pas tous encore.
Et à un moment donné, Lorenzo Fertitta, qui était un des propriétaires, voulait vendre la compagnie. Et il est allé dormir là-dessus. Le lendemain, il a eu l'idée de créer une télé-réalité qui s'appelle L'Ultime Combattant, la saison 1 en 2005. Et on a réussi à mettre ça sur Spike TV dans ce temps-là, que tout le monde a été capable de voir cette télé-réalité-là qui est maintenant rendue à 40 saisons là, à peu près. Et c'est ça qui a sauvé
l'UFC. Ça a été le coup de maître, ça?
Ça a été le coup de maître. Ça a été la plus belle idée qu'ils ont eue. Et à partir de cette finale de cette saison-là, parce que la finale, c'est un combat encore aujourd'hui qui est historique. Forrest Griffin contre Stephen Bonner, c'est incroyable. Tu regardes encore ça aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs combats de l'histoire. À partir de ce moment-là, l'UFC est parti. Ça allume, ça n'a jamais arrêté. Là.
Ouais, sans arrêt. Puis aussi, c'est là que tu as fait ton comeback. Tu as fait le Ultimate Fighter.
Oui, mais j'allais te relancer. Merci, David. Toi, tu as participé à ça. Là,
j'ai cette télé-réalité-là.
Ouais, quand je dis rapporté, pas juste monétairement, là, mais dans l'ensemble de ce que ça peut impliquer comme question, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Ça m'a apporté. J'ai eu ma première victoire à l'UFC dans cette télé-réalité-là, qui est pas comptabilisée sur la vraie fiche, mais quand même, ça m'a donné une raison de dire, OK, j'étais à la bonne place. Parce que moi, j'ai commencé ma carrière à l'UFC avec 4 défaites. À un moment donné, je me demandais, j'ai-tu la malédiction de l'octogone? Ben, j'étais invaincu à l'extérieur. Ça allait super bien. Mais c'est tellement gros, c'est tellement de pression à gérer aussi. Puis un coup que tu gagnes ton premier combat, là, on dirait que tu fais partie de la gang. On dirait que tu dis, OK, là, je suis à la bonne place. Moi, j'ai gagné mon premier combat, je suis parti sur une séquence de victoire jusqu'à temps d'avoir un combat de championnat du monde. Donc, toute cette pression-là qui t'enlève quand tu as ta première victoire à l'UFC, après ça, ben ça fait juste fleurir.
L'aspect peut-être, puis j'aimerais ça fouiller ça un petit peu avec vous autres, parce que il y a des années, pas juste dans le cadre de votre carrière professionnelle, mais pour arriver puis vous lancer dans ce monde-là, tu sais, vous êtes la plupart, c'est des ceintures noires dans pas juste un sport, pas juste dans un art martial, mais dans plus d'un, puis je pense que c'est votre cas, t'es ceinture noire dans au moins deux disciplines, bien précisément, David?
Oui, en jiu-jitsu brésilien, en taekwondo et en full contact kickboxing. C'est ça, j'ai trois ceintures noires.
Mais c'est, tu sais, juste avoir une ceinture noire, là, c'est de l'apprentissage, c'est des années.
C'est des années de essais, erreurs, et puis c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais c'est une passion. On fait ça avec la passion. On faisait pas ça, surtout les gars comme Pat Côté, Georges Saint-Pierre, moi-même. Il y avait pas d'argent, on faisait vraiment ça par passion. Je vais avoir des followers sur Instagram, puis
non,
le cercle était tellement petit, le cercle des arts martiaux mixtes, puis dans le temps aussi c'était même pas arts martiaux mixtes, c'était
kickboxing. Des fois de Jean-Yves Thériault,
bien sûr, je me souviens de Jean-Yves Thériault et tout. C'était les années 80-90.
Ça a été très populaire, la kickboxing, mais comme tu as mentionné, ça s'appelait pas des arts martiaux mix dans ce temps-là, c'est du combat extrême. On a réussi à trouver un nom à ce sport-là aussi à un moment donné, parce que c'est devenu vraiment plus planétaire. On a vu les combattants s'améliorer, comment ils sont tellement bons. Mais nous, lorsqu'on a commencé, tu ne pouvais pas dire, je vais aller faire ça pour devenir populaire ou faire de l'argent, parce que les deux, c'était impossible.
Vous analysez les personnes que vous êtes, les grands garçons, les grands adultes dans mi-quarantaine, c'était-tu clair, tu sais, les sports de combat hors martiaux mix, je veux dire, pourquoi être attiré? C'est quoi le profil d'une personne qui est attirée davantage par ces disciplines-là que les sports plus communs?
J'adorais les arts martiaux. J'ai toujours aimé les arts martiaux. J'ai toujours été un compétiteur. Depuis l'âge de 9 ans, je fais des compétitions d'arts martiaux. J'ai fait des compétitions de grappling, de jiu-jitsu, de taekwondo, kickboxing. Et là, j'ai vu le sport à la télé en 93. J'avais 13 ans. Et puis, je me suis dit, il faut que j'essaie ça une fois. Au moins une fois. Là, finalement, j'ai rencontré un promoteur en 99, et il s'appelle Stéphane Patrie, puis il partait une ligue de professionnels, et puis il m'a offert un combat. J'ai perdu mon premier combat, après j'ai eu une victoire, puis après ça... Mais après le premier combat, j'ai eu la piqûre, je voulais rien savoir, c'est j'arrêtais pas.
Mon premier combat, je me suis fait donner une raclée, je suis sorti de là, j'ai fait, ouais, c'est ça que je veux faire. c'est drôle, mais c'est exactement ça, je sais pas, c'est dur à expliquer, c'est l'adrénaline, c'est tout ce qui vient t'emporter, puis après ça, tu rends compte que tu peux pas te battre avec la haine, tu peux pas te battre en voulant faire mal à l'autre, parce que c'est sûr que tu vas tout perdre. Tu veux devenir une meilleure version de toi-même, mais tu veux gagner en connaissant plus de techniques que ton adversaire. Donc, ceux qui disent, OK, c'est sûr que les combattants sont là, ils vont se frapper, c'est correct, mais c'est un des rares sports ou des seuls sports qui commencent avec une poignée de main et qui se finit avec une poignée.